À voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Louis Chédid. Ce soir, les nuages, Anne Masseran et une certaine idée de la mort.
Louis Chédid, bonsoir.
Bonsoir.
Hier soir, il était question de vos premiers tubes, de votre participation au conte musical Émilie Jolie, de vos voyages. Et ce soir, nous allons parler de la façon dont vous avez collé particulièrement à l'air du temps. Et je commencerai par une chanson dont on doit vous parler beaucoup, qui est Anne Masseran, que vous composez en 1985.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez, Louis Chédid, rappeler le contexte social et politique?
Le contexte, c'est assez simple. C'est que quand j'étais petit à Paris, l'extrême droite représente. D'ailleurs, on savait même pas que ça existait. Enfin, s'il y avait un type qui était avocat et qui s'appelait Tixier Vignancourt et qui représentait l'extrême droite, et l'extrême droite, c'était 0,3% de l'électorat français. Enfin, c'était vraiment minable. Quand un peu plus tard, quand j'avais 13 ans, les écoles nous montraient un film de René, d'Alain René, qui s'appelait Nuit et brouillard, qui était un film sur les camps de concentration. Et c'était très très impressionnant. C'était un film très court en fait. C'est Michel Bouquet qui faisait le commentaire. Mais enfin, c'était frappant parce que moi, on m'avait jamais parlé de la guerre et. Au sortir de la guerre, les parents parlaient pas de ça à leurs enfants. Enfin, c'était pas un truc dont on parlait, quoi. Et j'ai pris ça en pleine tête comme plein de jeunes qui ont vu ces films-là.
Il est sorti en 1956.
Ah oui, voilà. Mmh. Moi, j'ai dû le voir un petit peu plus tard, je pense. Parce que 56, j'avais 8 ans. Je pense pas que je l'ai vu à 8 ans. Mais enfin, les écoles le passaient et... Et c'est vrai que ça m'a marqué. Je trouvais ça, mais surréaliste, ce que je voyais. Holocauste, mais pas seulement l'antisémitisme, le racisme en général contre les Noirs aux États-Unis, l'esclavagisme, le massacre des Arméniens. Enfin, il y a tellement malheureusement d'exemples. Ça m'a vraiment heurté. Enfin, ces images. Et puis il se fait que dans les années 80, quand Mitterrand est passé au pouvoir. Bizarrement, mais c'est comme ça, hein, c'est une vérité. Il a un peu ouvert la porte à l'extrême droite, qui représentait 3% à l'époque, et qui était déjà pas mal, c'est Jean-Marie Le Pen, il a ouvert la porte pour désinguer un peu le Parti communiste et le Front, programme commun, enfin tout ça, machin. Il les a fait monter, il leur a donné accès à la télévision. La plupart des journalistes disaient avant, moi vivant, jamais j'accueillerai ce type-là et tout ça, machin. Et petit à petit, ça s'est ouvert et puis ils sont montés, quoi. Et ça, moi, à l'époque, ils représentaient peut-être, ils sont passés de 3 à 6 ou 7%. Ouais. Et puis, je suis un citoyen comme tout le monde, mais qui a la possibilité de dire des choses d'une manière publique, et voilà, j'avais besoin de dire ça. Et donc j'ai fait cette chanson, Anne Masseran, qui pensait les maisons de disques, se disaient que ça c'était tout sauf un tube, enfin, il n'y avait aucune chance que ça marche. Mais moi, j'en avais rien à foutre. Et j'avais juste envie de la faire entendre, quitte à ce que ça marche pas. Enfin, c'était pas le problème, c'était pas que ça marche ou que ça marche pas. Et je me suis même fâché avec une maison de disques. J'ai quitté une maison de disques qui voulait pas le sortir en premier extrait pour aller dans une autre qui l'a sorti. Et puis alors le comble, c'est que ça a marché. Donc c'est ça qui est fou. Cette chanson a été extrêmement entendue et elle est toujours malheureusement, je dirais, à chaque fois je dis ça, mais malheureusement d'actualité encore aujourd'hui, etc. Heureusement l'héritière a complètement merdé sa campagne électorale présidentielle. Donc ça c'est pas mal parce que elle s'est autodétruite toute seule. Elle a eu besoin de personne pour se pour se foutre en l'air. Donc ils en ont pris un petit coup dans l'aile, mais bon, enfin, faut veiller au grain quand même. Faut faire attention.
Vous pouvez rappeler les paroles, Louis Chédid?
Al-Masrane, oui. Si je te disais ce que je voulais venir, Al-Masrane, j'arrive pas à y croire, quel cauchemar, voilà, en gros, vous voyez ce que je veux dire.
À part le succès, oui. Est-ce qu'elle a déclenché aussi des réactions négatives que vous avez...
Bien sûr, évidemment. Non, mais ça, oui, bien sûr. Évidemment, ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, hein. C'est sûr que c'est quand vous chargez comme ça... De manière frontale, oui. Mais enfin bon, c'est pas... Ça n'a jamais été au-delà de la menace ou des trucs comme ça. Quand je faisais l'Olympia, il y avait des types dehors qui m'attendaient, qui balançaient des grenades lacrymogènes, il y a eu ça, des choses comme ça. Mais enfin bon... Après, bon, ça fait pas plaisir, hein, mais c'est le risque. On sait bien que en faisant ça, on risque de se faire des ennemis, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est une chanson qui a traversé le temps et qui est toujours là et qui est une chanson importante pour moi parce que c'est une chanson de d'opinion, je sais pas comment dire, c'est une chanson de... Oui, c'est une chanson un peu différente des autres parce qu'elle a, elle a une vraie... Elle affirme quelque chose, quoi. C'est autre chose, c'est une autre forme de chanson. Il y a une chanson comme Ainsi soit-il, c'est une chanson synthétique, comme on dit, électronique un peu. Chanson comme T'as beau pas être beau, c'est très acoustique et tropical. Moi, je suis passé par plein de trucs comme ça.
Et là, c'est une chanson engagée.
Engagée, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'engagée, oui, évidemment qu'on s'engage quand on dit des trucs comme ça. On s'engage d'un côté. Oui, c'est une chanson engagée. Oui, ouais, on peut dire ça.
Au printemps 2017, lorsque les sondages annonçaient un score élevé pour Marine Le Pen, sur les réseaux sociaux, il y avait souvent le clip d'Anne Massaran.
Oui, je sais. Oui. Mais voilà, c'est aussi à ça que les chansons, de temps en temps, les gens peuvent le mettre en porte-drapeau, enfin en avant, parce que vous dites quelque chose que beaucoup de gens pensent et ça leur permet de se dire... Moi, ça m'est arrivé des tas de fois d'entendre devant un film, je dis, ou de lire un livre et de me dire, mais ce mec, il a... D'ailleurs, j'ai lu le livre de Patrice Lecomte, il a fait aussi un dictionnaire de ma vie, comme ça. Et vraiment, en lisant le bouquin, je me suis dit, mais c'est dingue, ce type. On a exactement les mêmes... Pour plein de choses, on a les mêmes goûts, on a des points de convergence incroyables, etc. Machin. Et voilà, j'espère le rencontrer un jour, parce que vraiment, lui aussi, il adore les comédies musicales indiennes, Bollywood et tout ça. Par exemple, entre autres.
Et vous aimez bien ces films?
Oui, j'aime beaucoup. Il y a quelques films de Lecomte que je trouve formidables.
Vous avez fait, Louis Chédid, d'autres chansons engagées après Anne Massaranne?
Oui, oui, j'ai fait des chansons, mais enfin c'est celle-là qui est la plus notoire, disons.
Mais est-ce que vous seriez d'accord, Louis Chédid, pour dire que si je dis que vos chansons, elles sont humanistes, les textes sont égomanes, par exemple.
Oui.
Bah c'est une chanson.
Oui, bien sûr. Oui, absolument. Oui, c'est qui dit, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais il y en a pas mal, oui. Oui, c'est des chansons qui parlent de la condition humaine, je sais pas comment dire, des défauts et des qualités des gens, et des choses comme ça, mais parce qu'on... C'est mes défauts et mes qualités à moi aussi, on est tous un peu égoïstes, et on est tous un peu en train de faire attention plus à soi que parfois aux autres. Égomane, hein, je parle de égomane. Mais... Puis à la fois c'est humain, enfin on est humain. Tant qu'on fait pas de mal aux autres, je pense que on a tous des défauts. Ce qui est intéressant chez les gens, c'est pas leur qualité, hein, c'est leurs défauts, c'est les petits travers qu'ils ont. Après, si c'est vraiment des assassins, des ordures et tout, ça c'est autre chose.
Et sur l'album Egoman, parce que c'est aussi le titre d'un album, ouais. Egoman. Il y a une chanson qui s'appelle Danseur mondain.
Oui, voilà. Ouais. J'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Ça, c'est sur la mort, enfin, sur le devenir, sur la condition humaine, c'est sur vraiment sur le passage, sur la durée extrêmement courte de la vie. Enfin, ça, c'est des thèmes vraiment, moi, que j'affectionne, parce que c'est vraiment. Le grand mystère de la vie, c'est la fin, quoi. Qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, heureusement que ça existe, parce que ça fait des romans, des chansons, des films. Je veux dire, tout est basé là-dessus, en fait. C'est sur ce mystère insensé que personne n'a percé, évidemment, puisque. Et tant mieux. Qu'est-ce qui se passe après? C'est une sacrée question, ça. Ça nous mène tous, hein, tous.
Vous ne pensez pas qu'il ne se passe rien? Non, vous ne savez pas. Vous ne pensez... Oui. Vous n'êtes pas absolument...
Qui le sait? Personne. Non, je veux dire, moi, tant que je ne sais pas, je dis c'est 50-50, je veux dire. Il y a des jours où je me dis la bouteille est à moitié vide, d'autres fois, la bouteille est à moitié pleine. Mais on ne peut pas dire oui ou non, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on la ferme. Ah, c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est une vérité, je veux dire, à partir d'un certain âge, il vous reste 10, 15, 20 ans devant vous, quoi. Et quand je dis ça, je dis, putain, il faut que je fasse des... faut que je me mette le turbo, parce que il me reste 10, 15, 20 ans devant moi. Les gens disent, ben non, mais pourquoi tu dis ça? Mais oui, parce que c'est vrai. Et c'est comme si je disais, oh, le pauvre, ben oui, mais c'est pas le pauvre, c'est un fait. Donc après, mais c'est très marrant dans les pays comme les nôtres, très matérialistes, qui ont complètement occulté tout ce qui est spirituel, etc. Pour des bonnes raisons aussi, hein. Mais pas que pour des bonnes raisons. C'est un sujet tabou, mais vraiment tabou, quoi. Moi, j'adore aller dans les cimetières. Par exemple, j'en ai un juste à côté, que j'aime beaucoup. Où il y a du très très beau monde et j'adore parce que ça vous remet les pendules à l'heure, hein. Tout de suite vous rentrez, vous vous baladez, vous voyez les dates et tout, vous dites bon bah si tout va bien, vous voyez ce que je veux dire, et ça remet vraiment les pendules à l'heure. Moi j'aime bien ça.
Et comment on se prépare, Louis Chédid? Comment on se prépare à la mort?
On se prépare, chacun se prépare comme il veut. C'est-à-dire qu'en fait déjà quand on ne nie pas, quand on est conscient de cette échéance, quoi, qui est inéluctable. C'est pas comme si on vous dit c'est la seule vérité dans laquelle on vit, quoi. Tout le reste est hypothétique. On sait pas quand est-ce que ça va arriver, on sait pas si on va rencontrer demain quelqu'un qui va vous changer la vie, ou on sait jamais ce qu'on va faire, bon. Mais ça, on sait que ça va arriver. Donc voilà, c'est simplement vivre avec ça. C'est-à-dire ne pas le mettre sous le tapis, et comme on range la poussière sous le tapis en se disant « bon bah, pour l'instant, je suis passé entre les gouttes ». Voilà, mais je crois que déjà, c'est pas mal. Mais moi, voilà, c'est tout ce qu'à mon avis, on peut faire. Et puis évidemment, il y a aussi la spiritualité qui fait que, pour certaines personnes, l'après est une chose encore mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, c'est pas ce que je pense. Enfin, c'est peut-être, mais je sais pas. Il y a des gens qui sont absolument persuadés que c'est mieux après. Il y a des gens qui sont persuadés qu'il n'y a rien après. Ça, c'est un truc aussi... qui me sidère toujours, parce que quand des gens me disent ça, mais il n'y a rien après. Ah bon, ouais, comment tu le sais? Parce que personne ne le sait, évidemment. Donc, voilà. Mais je pense que c'est de vivre avec. Enfin, moi, c'est ce que je pense. J'essaye, j'y arrive pas toujours. C'est compliqué.
Oui, vous écrivez davantage sur la mort que sur l'amour.
Non.
Non, c'est, ou alors c'est l'amour en famille. Enfin, l'amour...
Non, pas du tout. J'ai fait plein de chansons d'amour. Plein. Oh, plus de chansons d'amour que de chansons... Ah oui, quand même. mais c'est un truc qui me... Mais évidemment que c'est fascinant, quoi. Je veux dire, mais là, on est dans des pays très matérialistes. Donc la mort, c'est un truc... On la met de côté, on n'en parle pas. Le premier qui en parle, on le regarde comme ça, comme si c'était vraiment un mec déprimé. Mais c'est pas déprimant, c'est une réalité. C'est la seule chose dont on est absolument sûr. Ça, c'est certain, et c'est la première vérité, c'est la seule qu'on ait, c'est qu'on va tous y passer. Donc voilà, on peut pas nier ça, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose de... Moi, j'y pense, mais sans que ce soit... Pour moi, c'est pas dramatique, c'est dommage, j'aimerais vivre beaucoup plus longtemps que la courte période qu'on a, mais c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de quoi ni en avoir peur, ni s'énerver à cause de ça, ni le mettre de côté, parce qu'au contraire, moi, je pense que c'est important de s'y préparer d'une certaine manière.
Et vous y pensiez autant à 35 ou 40 ans ?
Là, dans ce monde-là, la chanson dont vous parlez, là, je l'ai fait.
Ah oui, j'avais 80.
J'avais 30 ans. Hein, oui. Voilà, ouais. Ah oui, oui. Je pensais même plus, peut-être. Ouais.
Vous vous souvenez, Louis Chédid, de la musique que vous écoutiez dans les années 80-90? Parce que vous nous avez dit lundi que, adolescent, vous écoutiez les Beatles et que la variété française vous semblait désuète. Un peu décalé.
Que je n'étais pas attiré par ça, oui. Ce n'était pas ma première écoute. J'entendais parce que, vous savez, à l'époque, il y avait trois radios, donc avec trois radios et qui passaient quasiment les tubes et tout ce qui, par exemple, les Champs-Élysées de Joe Dassin ou les Terres Indiens, ça passait partout. Vous entendiez que ça toute la journée, donc c'était absolument impossible de passer à côté, même si on n'avait pas envie. Voilà. Et c'était bien en plus, hein, moi j'aime beaucoup les chansons de Dassin, hein, et avec le recul. Mais j'étais plus attiré par les chansons, les groupes et tout ça.
Vous avez rencontré Joe Dassin ?
Ouais. Ah. J'ai rencontré Joe Dassin. Il voulait même que je fasse des chansons pour lui. Et j'ai pas donné suite. Mais c'est un de mes grands regrets.
De ne pas avoir donné suite.
Ouais. C'est un de mes grands regrets. J'étais un peu con à l'époque, un peu snob et un peu ridicule. Je regrette vraiment parce que je trouve qu'il a fait des chansons absolument magnifiques. Il a une voix extraordinaire et j'ai pas donné suite. C'est bête. Comme ça.
Et alors, la musique que vous écoutiez dans les années 80-90, vous en avez des souvenirs ?
Vous savez, j'écoutais beaucoup de trucs. Il y avait tellement de choses que. Aussi, là. Je sais pas. J'arrive pas à voir avec les dates tout, mais. Même des trucs disco, les Bee Gees, les machins. Enfin, c'était pas 80, je crois. Je sais plus. Et moi, j'aimais bien. Il y avait des trucs disco que j'adorais. Après, il y a eu Jackson. Michael Jackson, c'était extraordinaire. Enfin, il y a plein de choses.
Vous aimiez Prince ?
Ouais, j'adore Prince. J'adore Prince. Mais c'est un peu plus tard, ça. Enfin, non, mais c'est Prince, Cream, tout ça, c'est plutôt 90 ou des trucs comme ça. Ouais.
Et aujourd'hui, Louis Chédid, quels sont les courants musicaux que peut-être nous ne connaissons pas et qui vous semblent importants ?
Moi, je suis pas un spécialiste, hein, mais mais toutes les musiques sont intéressantes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique mineure. Il y a des artistes qui sont majeurs ou des artistes mineurs. Mais il n'y a pas de musique mineure, c'est comme s'il n'y a pas de... La seule chose où je n'étais pas d'accord avec Gainsbourg, c'est quand il disait « la chanson est un art mineur », parce que moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense que la chanson est un art mineur quand c'est fait par des gens mineurs, comme la peinture devient un art mineur quand c'est fait par des gens qui n'ont pas de talent, vous voyez, des faiseurs ou machin, mais la peinture, la chanson, le cinéma, c'est un art majeur à partir du moment où c'est fait par des gens qui ont beaucoup de talent, c'est ça la différence, c'est pas... Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Moi, beaucoup des trucs électro, par exemple, mais ça vous dira rien, ce que je vais... Donc...
Non, mais aux auditeurs, vous pouvez le dire, parce que peut-être...
Oui, mais James Blake, par exemple, c'est un type très, très fort. C'est un jeune mec, hein, il est tout jeune, mais il est très très fort dans la musique électro. Il y a des groupes comme... Mais après, ouais, c'est tellement... c'est tellement pointu que...
Non, non, mais dites quelques noms.
Ouais, voilà, James Blake, Anderson .Paak, Radiohead, bon, ça c'est plus connu déjà. Enfin, il y a plein de gens comme ça. Dans la jeune génération française, bon, mais il y a Mathieu, ça c'est sûr que pour moi c'est un des meilleurs, vraiment. Et en plus au niveau de la scène et tout ça, c'est un très bon. Je suis moins. Je suis sensible à des chansons, par exemple, dans la génération française. Il y a des chansons qui sont bien. Bon, il y a une fille comme Camille, elle fait des trucs vraiment intéressants. Voilà, mais enfin bon. Après, à chaque fois qu'on dit ça, on se fâche avec la moitié de la. C'est 99% des chanteurs français, donc. Parce qu'on les a pas cités, alors.
Vous dites que votre fils Mathieu est en plus très bon sur la scène. C'est être bon sur. Très bon sur scène, c'est faire quoi?
Vous savez, être bon sur scène, c'est avoir une présence et emmener les gens qui sont dans la salle et les survolter, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils viennent en général pour voir un artiste, hein. Mais ils peuvent repartir mécontents, ils peuvent repartir déçus, etc., etc. Et tout l'objet de la scène, c'est justement qu'ils repartent encore plus contents et en se disant c'est encore mieux que ce que je pensais que j'allais voir. Et vous avez des artistes qui sont très mauvais en scène, qui font des chansons magnifiques, etc., mais qui sont comme des bouts de bois en scène et vraiment qui n'ont aucune présence et qui ne sont pas du tout communicants, quoi. Voilà. Et être bon en scène, c'est justement d'établir assez vite un dialogue avec les gens et qu'il y ait une chaleur qui se dégage et que quand ils ressortent, ils se disent « Ah, j'ai passé une soirée géniale ». C'est ça, être bon. Ça ne veut pas dire obligatoirement gigoter partout et danser comme un malade, mais ça veut dire être présent, quoi. La présence, c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Et il y a des chanteurs très connus qui ne l'ont pas, et des chanteurs moins connus qui l'ont d'une manière incroyable. Ça se voit tout de suite, le karma, le truc. Mais c'est rare.
Et votre fils Mathieu, il l'avait dès le début, il jouait avec le public dès ses premières scènes.
Ouais. Ouais. Ben oui. Non, non, il est très bon, il est très bon là-dessus. Mais il y en a d'autres. Benabar est un mec qui est très très bon en scène aussi. Il est très communicant, il est très... il y va, quoi, il y a de l'énergie. Julien Clerc, c'est un des mecs... au début, quand je l'ai vu, au début, je l'ai vu à l'Olympia, il y a... des années, c'était vraiment le démarrage. J'étais impressionné par la puissance d'énergie qu'il y avait chez ce type, et comment il galvanisait les gens. À l'idée, évidemment, bon, ça c'est sûr que là, c'est du très haut niveau, mais...
Vous l'avez vu en concert?
Non, jamais, c'est pour ça que je vous dis qu'il est très présent. Mais... à l'idée, il était exceptionnel. Voilà, il y a des gens comme ça, quoi. Après, vous avez des groupes aussi qui sont inouïs, hein. Les Stones, encore aujourd'hui, ils sont normalement des vieux messieurs, hein. C'est dément. C'est des boules d'énergie, ces gens-là. Formidable.
Vous avez cité le nom de Gainsbourg, Louis Chédid. Vous l'avez rencontré?
Oui, j'ai rencontré, oui.
Et ça s'est bien passé?
Très très bien, ouais. J'aime beaucoup, enfin j'avais beaucoup de... C'était quelqu'un de très, très sensible, très, très bienveillant, très chaleureux en fait. Il donnait une image de cynique et de type très hautain et très un peu bourré tout le temps, etc. Mais c'était quelqu'un de très très, très sensible, très sensible. Et très très bienveillant en fait, très gentil. Tous les gens qui l'ont bien connu, moi je peux dire que je l'ai bien connu, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai été très touché par ce mec, quoi. Vraiment.
Qui vous avez rencontré d'autre, Louis Chédid, qui a été, oui, mais qui a été, qui vous a marqué. Donc il y a Nougaro, on a entendu
ouais,
que c'était.
Non, mais
Ouais.
Nougaro, je l'ai rencontré très peu. Je l'ai croisé une ou deux fois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué. Pas marqué, mais disons, moi j'adore les artistes, donc vraiment je suis très preneur de rencontrer des artistes. Je trouve que c'est des gens à part qui sont très dans la sensibilité. Donc c'est des gens qui sont à fleur de peau souvent et qui sont fragiles, quoi. Et c'est des timides en général. C'est des gens assez réservés qui sont et qui trouvent rien de mieux que justement de pour expulser toute cette timidité, de monter sur scène, de se retrouver devant des. C'est un truc de dingue quand on y pense. Parce que vraiment, c'est plutôt des gens renfermés, hein, les artistes. Et voilà, donc c'est toujours intéressant de parler avec eux. Après, vous avez, comme dans tous les milieux, des gens moins sympathiques que d'autres, hein, ça arrive. Hein. Mais c'est rare, en fait. C'est assez rare. Non, non, par mon métier, par ce que je fais, j'en ai rencontré beaucoup. Je suis rarement déçu.
Rarement déçu.
Ouais,
oui.
Je suis rarement déçu. Ça m'est arrivé d'être déçu, d'avoir très envie de rencontrer quelqu'un et puis de me dire il vaut mieux pas. Il y a des gens qu'il vaut mieux pas connaître, en fait. Mais c'est rare, c'est très très rare, en fait.
Et vous avez, Louis Chédid, cette timidité-là dont vous parlez qui disparaît sur scène?
Oui, enfin, j'étais très timide quand j'étais petit. Après, je me suis soigné un peu quand même. Mais c'est vrai que. Oui, quand je suis sur scène, je suis complètement quelqu'un d'autre. Complètement. Mais on est, obligatoirement, quand on est sur scène, on est complètement quelqu'un d'autre. J'ai des exemples comme ça où j'avais par exemple une rage de dents mais monstrueuse, monstrueuse, il y a longtemps comme ça. Et je faisais un concert le soir et vraiment je pensais que je pourrais pas y aller, quoi. Et bon, j'avais pris des médicaments, des machins, et tout, j'étais en province. Puis au dernier moment, j'ai dit bon, j'y vais parce qu'il y avait des gens dans la salle, tout ça, c'était pas possible de pas y aller. Mais j'avais vraiment très très mal. Et j'ai mis le pied sur la scène. J'avais plus mal du tout. J'ai fait 2 heures sans même y penser. Quand je suis ressorti, boum, c'était reparti, j'avais très très mal. Donc vous voyez, ça veut dire, vraiment me dire qu'on est dans un autre. C'est autre chose, quoi. On n'est pas dans un terrain normal. Ça c'est bien.
Merci, Louis Chédid.
Ah ben voilà. Super.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Louis Chédid. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.